Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous des coloniales sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusion le dimanche à 18h et quand vous voulez en podcast.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices de la Clé des Ondes 90.10. Pour cette seconde émission du guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes concernant l'année 2024, nous allons continuer notre cycle spécial sur le Kurdistan. La première émission en mars portait sur le témoignage de Bayan Mohammadi, chanteuse kurde en Iran. Nous avions ensuite invité M. Hamid Bozlarchlan en juin 2023 pour faire une émission sur l'histoire du peuple kurde. Et une troisième émission avec M. Tejal Gorjas portait sur le traité de Sèvres et de Lausanne à la fin de la Première Guerre mondiale. Deux traités qui ont scellé l'actualité des Kurdes à être le plus grand peuple sans état, séparé, comme vous le savez, entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Vous pouvez bien sûr retrouver ces émissions sur le site de podcast de votre radio, laclédesondes.fr. Ainsi, pour notre quatrième émission sur le Kurdistan, nous allons nous concentrer sur les mouvements révolutionnaires kurdes et leurs combattants et combattantes pour la liberté et l'indépendance. Lors de la guerre qui les ont affrontés à l'État islamique, ces images ont fait le tour du monde. Ces femmes combattantes de la guérilla du YPJ et du PKK avec leurs foulards de fleurs et les armes d'assaut en main. Ces images sont marquantes d'une double dynamique. L'importance du combat des guérillas kurdes pour anéantir au maximum l'État islamique, mais aussi les principes de la guérilla kurde où les femmes sont des combattantes au même niveau que leurs homologues masculins, suivant des préceptes particuliers pour lutter que nous allons étudier aujourd'hui. Un combat anticolonial pour leur indépendance, mais aussi un combat politique et sociologique pour refonder une nouvelle société fondée sur les principes du confédéralisme démocratique, de l'écologie et de l'égalité entre les sexes. Les guérillas kurdes et leurs objectifs révolutionnaires fascinent les observateurs du monde entier par le schéma politique proposé par leurs préceptes. Elles sont un point de convergence entre différentes luttes, combats militaires et politiques contre la colonisation des États, combats militaires contre Daesh, forme avancée de féminisme, volonté de promouvoir le confédéralisme démocratique pour renverser le modèle de l'État-nation, contestation contre le capitalisme et le culte de la croissance, avec le souhait de mettre en place une écologie radicale. C'est un sujet complexe car le PKK, notamment, qui est l'organisation la plus importante des guérillas kurdes, la plus grosse, est inscrite comme groupe terroriste dans de nombreux pays européens en raison de l'hyper-violence des combats, notamment sur le terrain de l'État turc. Ainsi, nous allons, durant deux émissions, définir la révolution kurde et vous apporter les réalités géographiques et l'adaptation des combattants et des combattantes kurdes aux réalités des États qui les colonisent. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission spéciale sur l'histoire, le socle politique et théorique, ainsi que le fonctionnement des mouvements révolutionnaires kurdes. Puis, en février, nous nous retrouverons pour analyser les révolutions actuelles avec la mise en application des nouveaux préceptes, notamment à Rojava, mais aussi dans certaines régions du Kurdistan irakien. Et pour nous accompagner, je suis très heureuse d'avoir ici avec nous au studio de la Clé des Ondes, Madame Badia. Rojbaj Badia.
Rojbaj, Sandra. Donc, merci de m'avoir accueillie.
Merci beaucoup.
Je t'écoute.
Merci beaucoup, Badia, d'être au micro. Donc, Badia, tu es présidente de l'association kurde Rojava Gironde, mais également porte-parole du mouvement des femmes kurdes localement. Militante acharnée, nous pouvons t'apercevoir dans la majorité des événements pro-kurdes et anticoloniaux sur le sol national. Merci à nouveau pour ta présence derrière notre micro. Et donc, tu es toi-même kurde. De quelle région du Kurdistan es-tu originaire?
Je suis kurde syrienne du Rojava, la partie de l'ouest. Rien que le nom Rojava, ça veut dire le coucher de soleil. D'accord. Donc, je suis de Derik, pas très loin de Tigre.
D'accord.
Et non plus, en fait, on est à la frontière la plus petite entre la Turquie et l'Irak. Depuis le jardin de la maison de mes parents, on voit la frontière, le mont Sinjar.
D'accord.
Donc on voit l'Irak, on voit à peu près la Turquie.
Ok. Donc c'est au cœur, en fait, du Kurdistan.
C'est le pouce de la carte syrienne, on peut dire, le Rojava. C'est environ 30 kilomètres de largeur.
Okay.
Donc on est un peu au milieu.
Ok. Et donc, est-ce que tu peux présenter les différentes associations que tu représentes par tes travaux militantes?
ici, à Bordeaux. Nous avons l'association Kurdes Rojava Gironde, qui était basée sur les primo-arrivants après la révolution syrienne, après la guerre de la Syrie. Ce sont les familles, et beaucoup de familles de Afrin et de Kobané qui sont venus ici dans la région, qui réclamaient une main réconfortante et une voix kurde de les représenter. Et ils ont fait appel aux anciens, que je suis, j'en fais partie. D'accord. Nous avons créé cette association de montrer une autre image de la culture kurde à travers de la musique, d'organiser des événements culturels et surtout aussi être là pour les besoins matériels et psychologiques aussi, d'être à l'écoute et de les accompagner dans les différences, dans les différentes démarches auprès de cette population.
D'accord. Et concernant le mouvement des femmes kurdes ?
Le mouvement des femmes kurdes, moi j'ai démarré un peu avant Kobané, dans les femmes Peyada.
Je te coupe juste quand tu parles de Kobané, tu parles du siège de Kobané durant, en
2015-2016 ? 2015-2016, oui. D'accord. Oui. Je faisais partie, on va dire, de mouvement des femmes kurdes de Peyda en Europe. Donc c'est un mouvement qui c'est à l'international. Toutes les femmes kurdes et autres, ils ont la place d'en faire partie. Après, je faisais partie de la représentation de Rojava à Paris. Et ces dernières années, je me suis focalisée sur le local. Car le travail de faire les voyages en Allemagne, Pays-Bas, Belgique ou à Paris, ça me prenait énormément d'énergie. Pour cela, nous avons créé l'association Kurdes Rojava Gironde, et je suis la coprésidente aussi de CDKB, le Centre démocratique kurde Bordeaux, qui est une des centres démocratiques nationaux représentés par le CDKF, c'est-à-dire le Centre démocratique kurde français. Et après, on a le CDKE à l'Europe.
Et donc le CDKB, c'est celui qu'on retrouve à ce nom ?
Ah, ce nom, tout à fait.
Au centre de ce nom, oui. Très bien.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous des coloniales sur la clé des ondes.
On va donc démarrer cette émission spéciale sur la révolution des Kurdes. Néanmoins, je souhaitais préciser que nous allons particulièrement nous intéresser à ce qu'on appelle le Kurdistan du Nord, qui correspond aux régions kurdes en Turquie, mais aussi le Kurdistan de l'Ouest dans l'actuelle Syrie. Même si, bien sûr, le Kurdistan, c'est toutes les régions qui vont être entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, c'est notamment dans les contextes syriens et dans les contextes turcs qu'on a vu une collaboration plus forte au niveau des guérillas.
Oui, le Kurdistan, c'est le même cœur, c'est les mêmes souffrances, les mêmes espoirs. Je ne vais pas reprendre l'histoire du Kurdistan et la division du Kurdistan. J'en fais partie des familles qui a été divisée en deux. J'ai mes tantes, mes cousines, ma grand-mère qui est restée d'un côté et nous sommes restés de l'autre côté après le traité de Lausanne. Donc je ne sais pas au niveau de la question si on va parler de Kurdistan du Nord. Parce que c'est le berceau du PKK et de la révolution et l'idéologie de Abdullah Öcalan. Dans les années fin des années 70, en 1968, ce parti a été créé par quatre personnes, dont Abdullah Öcalan et Mazlum Dogan et Khairi. Je ne me rappelle pas de quatrième, je suis désolée. Ce sont des universitaires qui ont repris les souffrances kurdes, qui ont subi toutes sortes de violences psychologiques et tortures dans les prisons. Une lutte acharnée qui a été bâtie avec ses membres de PKK. Et PKK, c'est la voix du peuple. C'est le manque d'existence du peuple kurde avec tout ce que un peuple qui mérite d'exister et d'avoir rien que de s'exprimer, le droit d'expression, de droit de parler sa langue, de droit d'être juste un existant, pas être un co-citoyen. C'est pour cette raison le PKK était né, pour demander les droits d'exister, le droit du peuple kurde de parler sa langue, comme je disais, je le répète. Ça a été aussitôt opprimé, violenté. Dans cet combat, il y a eu au-delà de 5000 villages brûlés et massacrés. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, on trouve des Kurdes en Anatolie, à Ankara, à Istanbul, partout. Ça a explosé le Kurdistan. Mmh. Les violences entre les guérillas kurdes, qu'ils n'ont pas eu autre que le choix de porter des armes pour se défendre. Et ils ont chassé, c'était la terre brûlée de système de AKP et de l'Empire ottoman, toujours brûlé la terre pour chasser ces hommes et ces femmes qui ont été chassés de chez eux et s'abriter plutôt en montagne. C'est pourquoi les montagnes, ce sont nos amis. Mmh. Et on chante beaucoup pour les montagnes et on chante pour le Kurdistan. Même quand les chanteurs, ils chantent pour leur amoureuse, et leur amoureuse, principalement, ils chantent pour le Kurdistan. D'accord. À travers tous les signes.
Et justement, cet attachement à la terre, hein, donc on rappelle, le Kurdistan serait l'un des plus anciens peuples du Moyen-Orient et qui fonctionnait comme des principautés autonomes, donc il n'y avait jamais des états forts. Et pour autant, ils seront du coup oppressés, colonisés par les Perses, par les Arabes, par les Ottomans, par les Turcs. Et on l'a vu ensuite avec le traité de Lausanne, où là, ce sera les États-nations, hein, ce sera la Turquie moderne, la Syrie moderne, l'Irak moderne. Et ce qui est intéressant dans les principes de Öcalan, c'est qu'il dit que désormais, pour créer l'homme nouveau, il faut sortir de ce statut de colonisé. D'après toi, qu'est-ce qui est pour toi grandir en tant que peuple colonisé ?
Grandir, c'est libérer, hein, trouver une voie de libération. L'idéologie d'Abdullah Öcalan, c'est la libération du peuple. C'est de vivre sur ces terres et en tant que citoyen, en tant que un peuple qui compte au-delà de 40 millions sans état, c'est pas normal, car le Kurdistan, il se retrouve au milieu des dictatures acharnées. Si on parle de Perses, ils ont persécuté jusqu'à aujourd'hui les jeunes Kurdes. Ils sont pendus tous les matins en Iran. Les femmes militantes, toutes les voix de la démocratie, ils sont tués. Par rapport au Kurdistan, comme je disais, au cœur de toutes ces dictatures, que les Arabes ou que l'Empire ottoman ont pu utiliser la religion comme une arme. C'est-à-dire, quand il y a eu la génocide arménienne, ils ont utilisé les Kurdes pour dire « Nous sommes frères, venez, ce sont des mécréants, etc. » pour tuer les Arméniens. Et heureusement, pas tous les Kurdes, ils ont participé à ces génocides. J'en fais partie des familles qui ont pu sauver des familles arméniennes. Ma grand-mère, elle racontait comment dans le berceau où il cachait son bébé, plus des bébés arméniens. Jusqu'à aujourd'hui, cette famille, elle est reconnue comme la nôtre. On est frères et sœurs et on a toujours vécu ensemble. Et le colonialisme a été forte, et jusqu'à aujourd'hui, la preuve, l'AKP mène ce système d'une existence, comme on appelle ça, d'effacer l'autre.
Oui. Oui, et puis ça commence dès Atatürk, qui va parler aussi des fameux Turcs des montagnes, qui va effacer toute question d'identité kurde. Et d'ailleurs, en parlant quand même du grand basculement qu'a été le traité de Lausanne, n'oublions pas que les Kurdes n'ont jamais accepté le traité de Lausanne, avec notamment toutes les grandes révoltes des années 1920-1930. Et pour moi, il y a un basculement qui est majeur, c'est bien sûr la révolte puis suivie du massacre de Dersim en 1937-1938, où vous allez avoir un grand soulèvement kurde, notamment porté par les Alevis, car ils refusent de mettre en place le décret Tunceli Kanun, qui était un des nombreux décrets pour turquifier par la force cette région, avec des centaines de morts, de grands déplacements forcés. Quel est le point d'impact de ce massacre de Dersim dans l'imaginaire kurde ?
De ce que je connais sur l'histoire de Dersim, c'est une ville qui se retrouve au Kurdistan du Nord. Mmh. Et la majorité des populations, ce sont les Kurdes alawis qui habitent cette région. Il y a eu des massacres, ils ont été brûlés vifs. Hein. Et il y a des photos historiques qui prouvent les soldats turcs avec des têtes, avec des massacres ignobles envers de cette population, ce qui a fait exploser la région. Et les Alaouis ont été chassés de leurs terres. Ça représente, c'est toujours... Les Alaouis, certes, ils sont multi... L'Alaouis, c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des Alaouis kurdes, il y a des Alaouis turcs, et malheureusement, c'est le Kurdistan, c'est le cœur du Kurdistan, c'est là où il y a Dersim, et c'est un événement marquant. Ça me rappelle aussi, à Hamouda, il y a eu un premier ciné, c'est au Kurdistan du Rojava. Dans les années 60, il y a eu un cinéma qui était fabriqué avec des toiles de jute. Ils ont fait venir 200 enfants, soi-disant, pour voir un film gratuitement. Et ils ont rassemblé les 200 enfants dans ce cinéma. Ils l'ont mis le feu.
L'État arabe ? L'État syrien ?
Oui, tout à fait. C'était un général arabe qui avait l'idée. Et c'était, cet argent il était dédié aux Palestiniens. Soi-disant, le billet, ça va aller aux Palestiniens. Mais en même temps, c'était voulu de brûler les enfants vifs. Il n'y en a pas eu beaucoup de survie. Il y a des chansons, il y a plein de... Malheureusement, nous n'avons pas des photos, nous n'avons pas des traces, mais personne n'en parle. C'était aussi un génocide de la génération nouvelle du Kurdistan syrien par le régime de l'Assad.
Et ça, c'est cette hyper-violence généralisée des États. On pourrait peut-être être à l'origine que dès 1978, quand Abdullah Öcalan va fonder le PKK, il sait, dès son origine, c'est une guérilla clandestine. Contrairement aux autres partis kurdes qui, eux, essayaient de rentrer dans l'État. Est-ce que le PKK explique pourquoi ils ont voulu avoir une identité clandestine dès le début ?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Okay. Si c'était clandestine, c'est que ça a été opprimé totalement. Mmh. Tu peux jamais dire à haute voix et en liberté que je suis kurde. Rien que le mot kurde, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023. Des générations y sont passées. Et l'identité kurde, elle est refusée par l'État turc. Elle a été massacrée, tuée de tout système implanté par des mythes. Les familles kurdes au nord du Kurdistan ont été terrorisées à l'intérieur de chez eux. Bon, rien qu'aujourd'hui, même des fois, des camarades qui se retrouvent en Europe, ils n'ont plus... Il y a une pression psychologique. Chez eux, ils ne pouvaient pas se parler en kurde pratiquement. Parce que son voisin, il pouvait être un reporter ou un service de renseignement turc pour les faire dénoncer et d'être tué. Et ce n'est pas fini, ça continue.
Oui, parce que là, il faut bien se remettre dans le contexte qu'au début des années 80, la dictature militaire va mettre en place ce qu'on appelle les Kourouchous, qui sont finalement des milices, des fameux miliciens armés, hein, protecteurs du village, et qui existent encore aujourd'hui.
Tout à fait.
Et qui sont là pour et surveiller et pour opprimer les Kurdes.
Ouais.
Öcalan et le PKK, où vont-ils s'installer lors de la fondation ?
Ils ne sont pas vraiment installés. Ils ne sont pas vraiment installés. De village en village, comme je disais, ils étaient pourchassés. Le guérilla, il va regagner les montagnes pour se sauver. Et dans les années 80, Abdullah Öcalan, avec quelques camarades, ils vont traverser la frontière syrienne. Ils vont venir en Syrie. D'accord. Et à cette époque, il y avait beaucoup de conflits entre l'Assad et avec l'État turc. Et c'était un enjeu politique pour garder un opposant contre l'État turc. Jusqu'à que, en 1999, les relations syriennes-turques ont pu être très proches. Et Abdullah Öcalan a été sacrifié pour cet accord-là.
Et donc, comme tu dis, justement, c'est à partir du moment où la Turquie va réussir à s'allier avec la Syrie que Öcalan rentre
dans le territoire syrien.
Dans le territoire syrien. Il va devoir partir. Après, il va devoir aller en Grèce, puis la Russie, puis l'Italie, puis Tadjikistan, puis encore la Russie, pour finalement avoir un avion de l'OTAN qui va l'emmener au Kenya le 2 février 1999, où il sera livré au service secret turc le 15 février 1999. Pour certains, cette livraison serait un piège de l'Union européenne, de la Grèce, des États-Unis, mais aussi d'Israël, qui était donc proche des Turcs depuis 1996. J'imagine que ça a dû être un choc au sein de la communauté kurde suite à son arrestation.
Je reprends sur l'idéologie d'Abdullah Öcalan et jusqu'à aujourd'hui dans le Moyen-Orient, c'est un exemple de démocratie. Et si on reprend ses livres et son idéologie, il avait raison. Déjà, de la création de PKK jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a envisagé pour les peuples de Moyen-Orient, tout ce qu'il prévoyait à l'avenir, se sont passés comme il disait. C'est-à-dire, les peuples opprimés, les Kurdes, les Palestiniens, le Moyen-Orient, la question d'Israël, l'existence de deux États, tout ça, ça a été évoqué par Abdullah Öcalan. Il voyait les choses qui vont arriver là. Donc, c'est cette voie qui était opprimée, c'est la voix des Kurdes, c'est la voix du peuple opprimé, c'est la voix de la libération des femmes. Si Abdullah Öcalan, il n'est pas que le fondateur de PKK, il est fondateur de l'esprit libre, il est fondateur de la place de la femme, il est fondateur de l'existence. Je prends l'exemple des Kurdes syriens, où j'en fais partie de ces Kurdes-là, comment imaginer que dans la même famille qu'on a, j'ai mon père, ses frères et sœurs, il a des frères qui n'ont pas la nationalité syrienne. De où ils ont atterri les Kurdes? C'est pas de la planète Mars qu'ils sont arrivés. Dans les années 2000, il y a eu plus de 5000 personnes enlevées de leur nationalité syrienne. Ils se retrouvent apartides. Ces gens-là, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas de voyage. Ils n'ont pas de passeport. Ils n'ont pas d'inscription scolaire. Ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Donc, là, on met le doigt sur les Kurdes, qu'ils soient en Irak, ou en Turquie, ou en Syrie, ou en Iran. On veut les enlever de leur identité et de leur droit d'existence. Donc, si on parle d'Abdullah Öcalan, si on parle de PKK, c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, la protection de la langue kurde, ça vient basé pour... Ce sont les combattants kurdes qui nourrissent ça. Nous n'avons pas eu de la chance d'être... scolariser pour étudier notre langue, tout ce qui peut être de l'ordre de la culture, de la lumière, on va dire, au niveau international, etc. Tout ce qu'on peut lire, tout c'était en cachette. Si le PKK il existait, c'est pour vraiment défendre les droits des Kurdes et les droits d'existence.
Ce qui est intéressant, à partir du moment où Öcalan se fait arrêter du coup en 1999, condamnation à mort qui devient condamnation à vie sur une île à côté d'Istanbul.
İmralı,
c'est le moment où le PKK aussi va se modifier dans sa théorie, va quitter un petit peu la théorie marxiste-léniniste et va fonder sa propre théorie, qui est le confédéralisme démocratique.
Tout à fait. Comme tu disais que c'était un choc pour le peuple kurde, l'arrestation d'Abdullah Öcalan était marquante dans l'esprit de chaque Kurde, car cette personne, il représente beaucoup. Il représente l'avenir du peuple kurde, en tout cas de ceux qui croient à son idéologie. Mais aussi, l'emprisonnement, c'est l'emprisonnement de notre voix. C'est ce qu'ils savent, l'État turc, où les services renseignements israéliens ou américains, ils savaient que cette voie, elle est la voie du peuple kurde. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une modification, et s'il y a un retrait des combattants kurdes des zones où ils occupaient au Kurdistan de Turquie, c'était un échange de faire la paix et de sauver ce qu'ils pouvaient sauver aussi. Il y a eu beaucoup d'accords avec Turgut Özal et arriver à des négociations et faire des réunions, sauf que tout a été mis en échec
par la Turquie.
Par la Turquie, pour ne pas avancer dans ce processus de paix, surtout. Nous avons accompli notre, les Kurdes, accompli notre engagement. Nous sommes allés jusqu'au bout, mais c'est la Turquie qui l'a mis en échec, qui l'a mis à, au bas de l'échelle de respect de droits de l'homme. Et on a été pourchassés, et jusqu'à aujourd'hui, les montagnes du Kurdistan, et il faut le savoir, que les bombardements chimiques, il a tout utilisé pour combattre, il ne peut pas. Et ces pertes-là, ça l'amène à être plus violent, et il ne pourra pas combattre les guérillas kurdes. La preuve, récemment, il y a eu au-delà de 30 soldats turcs tués par le guérilla kurde. C'est l'autodéfense. Il est attaqué par tous les Kurdes, quel que soit l'endroit.
Et comme tu dis, être pourchassé. Et malheureusement, on a eu l'anniversaire le 23 décembre de l'assassinat qu'il y a eu à Paris contre des membres de la communauté kurde. Et c'était cette musique que tu avais choisie de monsieur Mir Pewer. Est-ce que tu peux la présenter?
C'est un chanteur qui a été en prison en Turquie. Après avoir fini sa peine, il a décidé de venir en Europe, surtout la France, reconnu par le droit humain et d'avoir surtout d'être en sécurité. Comment on peut imaginer qu'on quitte le Kurdistan? Parce qu'on cherche la liberté, on cherche la sécurité. Et il a été tué en plein Paris. Et c'est pourquoi que je dis, même aujourd'hui à cette antenne, je le dis, mais chaque intervention, même mes pages sur les réseaux sociaux, ils sont très suivis par les mythes turcs qui sont implantés ici à Bordeaux et ailleurs. Et le risque, il est imminent par rapport à nos camarades. Chaque engagement, rien que d'être surtout la voix des femmes. Ce sont avec Mir Pewer à Paris, l'attentat du 23 décembre. Nous n'avons aucun doute là-dessus que c'est commodité par les services secrets turcs. Soi-disant que c'est un déséquilibré, c'est un fou qui a pris ses armes. Il a déjà été quelqu'un qui maîtrisait les armes bien comme il faut, qui a pris la route, il a traversé Paris pour aller jusqu'au centre démocratique. Imaginez, même n'importe qui ne peut pas croire un scénario pareil. D'aller, je déteste les Kurdes parce qu'ils ont tué qui ? Ils ont tué Daesh. C'est le peuple kurde qui défend la démocratie ici et l'Europe. Donc Mir Pewer, Abdurrahman et Avin Goy, une de nos militantes kurdes qui l'a combattu Daesh, quand a présenté les Kurdes avec leurs couleurs des foulards et leurs tresses, leurs jolis cheveux qui faisaient peur aux terroristes de Daesh. Et c'est grâce à... Elle est venue en Europe, Avin Goy, pour se soigner parce qu'elle avait des blessures de guerre. Et même son demande d'asile n'a pas été accordée. Elle a été tuée en plein Paris. C'est ça qu'on réclame, vérité et justice pour nos camarades. Rien que de se retrouver dans un pays comme la France, c'est rien que ça. C'est insupportable d'être tué. Venir chercher la paix, venir chercher la sécurité, on est pourchassé partout. C'est un sentiment d'insécurité même ici.
şirule tabe ne beşe gula berabe çavra şirule tabe ne beşe gula berabe ve çavan tez halandım teser hoş gerem teser hoş gerem ve çavan tez halandım teser hoş gerem teser hoş gerem خلک شکر لبه من آب خورد شیرین ناب دل من دجی گردی ای دل برام بر خلک شکر لبه من آب خورد شیرین ناب دل من دجی گردی ای دل برام شنگا مالا منی بین جگولین بهاره هدی هدی مشلیت دز مسکرم دز مسکرم هدی هدی مشلیت دز مسکرم دز مسکرم بر خلک شکر لبه من آبی خورد شیرینی ناب دل من دجی گردی ای دل برام بر خلک شکر لبه من آبی خورد شیرینی ناب دل من دجی گردی ای دل برام بر خلک شکر لبه من آبی خورد شیرینی ناب دل من دجی گردی ای دل برام خلک شکر لبه من آب خورد شیرین ناب دل من دجی گردی ای دل برام بر خلک شکر لبه من آب خورد شیرین ناب دل من دجی گردی ای دل برام بر خلک شکر لبه
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Comme mentionné dans la première partie de cette émission, le PKK porté par leur leader Abdullah Öcalan, surnommé Apo, avait à l'origine une théorie marxiste-léniniste, comme beaucoup finalement de rhétorique de combattants révolutionnaires dans les luttes décoloniales. Néanmoins, suite à son arrestation en 1999 et à la fin de la lutte armée au début des années 2000, on va voir aussi la mise en place de la régionalisation avec des brancheurs du PKK qui sont le PYD, le PCDK et le PJAK. Est-ce que tu peux présenter ces différentes organisations ?
PYD, c'est le Parti Union du Peuple syrien. Moi, je refuse dans le sens où on dit que ce sont d'autres partis qui viennent de naître du PKK. Certes, la base est la même. Comme je disais, dans les sentiments, dans les, tout ce qui est l'existence du Kurde, on est tous, on partage, comme je disais, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes principes de voir l'avenir, de s'en sortir. PYD, c'est la partie pour la Kurdistan syrien. PJK, c'est le parti de Kurdistan de l'Est au Iran.
Par cette régionalisation des branches, on va voir que donc le la théorie du PKK va aussi s'institutionnaliser de plus en plus dans l'ensemble du Kurdistan, car finalement, on va avoir une alternative à l'internation qui les opprime. Le nouveau projet politique de Öcalan est non plus une volonté de réformer par le haut, mais cette fois-ci de réformer par le bas, avec la mise en place du confédéralisme démocratique. On y voit aussi l'influence des échanges de Öcalan avec l'anarchiste Mireille Bookchin. Et donc cette deuxième partie de l'émission va donc porter sur la tentative de mettre en place un nouveau modèle de société, tout en continuant du coup le conflit armé contre les États colonisateurs et aussi contre l'État islamique qui va arriver dans les années 2010. Alors Badia, tout d'abord, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le confédéralisme démocratique.
Le confédéralisme démocratique, déjà de base, c'est l'idéologie d'Abdullah Öcalan. C'est le multi-ethnie, c'est l'écologie, c'est l'égalité entre hommes et femmes, basé sur un contrat social entre le peuple. Et si je parle de le confédéralisme démocratique au nord-est syrien, de Tigre jusqu'à Afrin, qui a été colonisé par l'État turc. Et aussi Sarikanie, c'est une région au nord de Asaka. Je ne sais pas géographiquement si on peut se repérer par rapport à ça. L'une des Afrin, la dernière, la première c'était Afrin, en seconde c'était Sarikanie. Et s'il a le pouvoir, il va détruire ce confédéralisme démocratique. Le confédéralisme démocratique au nord-est de la Syrie, il est composé, comme je disais, sur trois bases. C'est le multi-ethnie, c'est l'écologie et c'est l'égalité hommes et femmes. Et chaque administration, il est composé des trois ethnies principaux du nord de la Syrie, c'est-à-dire c'est les Arabes, les Kurdes, et ce sont les autres religions comme le catholique, les Syriens, les Arméniens qui composent les administrations. Y a beaucoup de commissions qui sont localisées dans les quartiers. Ensuite, même au sein de la mairie, au sein politique, tout est organisé ensemble. Même dans les régions des Rezor, Raqqa, qui étaient libérées par les combattants et combattantes kurdes, l'administration, elle est installée aussitôt.
Elle fonctionne comment? Sous la forme de comités? De groupes de personnes?
Oui, de groupes de personnes locales. Parce que par le pouvoir politique, ni matériel, les combattants, ils font leur travail. Une fois que les combats sont finis, ça prend le rôle de confédéralisme démocratique. Et ce sont des personnalités qui s'occupent d'organiser des commissions locaux qui sont organisées au sein de chaque ville, composées des trois ethnies ou plusieurs. Il y a des coprésidentiels aussi dans l'organisme. Comme je disais, quand les combats ils sont terminés, ça c'est basé. Et en plus, c'est l'installation des déplacés, surtout de s'occuper des déplacés, des blessés, et de subvenir à les besoins de population.
D'accord.
Aujourd'hui, même un État authentique accompli, il ne peut pas subvenir à tous les besoins, mais ils font le maximum de organiser ça rapidement. Et les Kurdes, ils se retirent, ils laissent le pouvoir au peuple local d'organiser les besoins. Telle ville, elle a plus l'eau potable, il faut organiser l'arrivée d'eau potable. Telle ville, ils font transférer les blessés parce qu'elle n'est pas équipée des hôpitaux ou installer un hôpital d'urgence. Ce sont les questions de base, et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils le maîtrisent bien. Sur plusieurs années, le confédéralisme démocratique, la gestion du quotidien, la gestion relationnelle, ça a été organisé de A à Z et gratuitement. Ce sont les peuples qu'on a voulu avoir notre liberté et se débarrasser de dictature de l'Assad et Bachar al-Assad. La seule région qu'on pouvait circuler librement, c'était la région du Kurde. Là où ça règne le confédéralisme démocratique, là où tout le monde retrouve sa place, là où le combat il est mené côte à côte, hommes, femmes, quelles que soient ces populations. On a vécu toujours dans l'histoire de Mésopotamie, les populations d'origine ont vécu côte à côte, ont subi aussi
la même oppression.
Les mêmes oppressions, l'abandon de cette région. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de bâtir vraiment quelque chose qui est exemplaire. Ils peuvent être appliqués même partout dans le monde occidental et partout, là où chacun il a vraiment sa place dans la société et sans contrebalance. C'est-à-dire, c'est une volonté de réussir. Mmh. C'est une volonté qui est basée sur beaucoup de sacrifices aussi. Nous avons perdu des frères et sœurs, au-delà de 13 000 combattants. Ils ont donné leur vie sans compter les rescapés, sans compter les handicapés de cette guerre, qu'ils n'ont même pas les moyens de se soigner. Et les administrations, elles essayent de couvrir tous les besoins du peuple. Et en même temps, envoyer un symbole, un message au monde entier que c'est vraiment à travers de cette idéologie qu'on peut réussir de vivre ensemble. C'est la base de tout. Que nous n'avons pas besoin de Bachar el-Assad ni de Erdogan de venir donner de leçons ni de l'Occident. Nous avons besoin d'une protection et c'est un exemple qu'elle est menacée car c'est la voie de la démocratie et la voie de la femme.
C'est un exemple que moi je trouve très intéressant, notamment vis-à-vis de la démocratie directe où en fait les habitants participent directement à leur vie quotidienne. Et oui, c'est un exemple qui remet en question même la question de l'état-nation total qui contrôle tout et qui est très très descendant. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec notamment la question de la guérilla, c'est à quel point ils éduquent et les personnes de la guérilla et aussi les habitants, les militants. C'est-à-dire que l'éducation, ce que j'ai vu beaucoup de documentaires, où par exemple les jeunes qui rejoignent la guérilla kurde vont avoir entre 2, 3, 4 mois de formation, dont 2 mois uniquement politiques. Est-ce que même vous, ici en France, l'éducation que vous donnez aux militants kurdes, aux personnes proches de vous, est importante ?
Dans notre idéologie, quel que soit qu'on soit ici ou ailleurs, ce sont les mêmes bases. Si on ne comprend pas notre idéologie, on ne peut pas avancer. C'est pourquoi le cœur et l'esprit, chaque Kurde, il a envie de s'en sortir. Mais chaque Kurde ne connaît pas l'idéologie. Chaque Kurde, il a besoin d'être éclairé de où est-ce qu'il va et pourquoi il s'engage. C'est surtout ça. Et ce qui s'engage, ce n'est pas n'importe qui aussi. L'engagement de chacun, il est primordial. Et nous avons beaucoup de jeunes universitaires assez avancés dans la vie, on va dire, en tant qu'étudiants et une percée de lumière et d'une génération, ils veulent s'engager pour y avancer. Et dans l'idéologie d'Abdullah Jalin, quand, par exemple, je connais une camarade qui s'était engagée plus de 15 ans avec le PKK et le guérilla. Quand elle s'était engagée, elle était à l'université, elle était journaliste, deuxième année ou troisième année. Et elle voulait s'engager, elle est allée en montagne et Abdullah Jalin lui a dit retourne à l'école. Nous avons besoin de chacun. Il y a, dans l'idéologie, il y a celle qui étude, il y a celle qui porte des armes, il y a celui qui s'occupe de la question de conflit conjugal. Je viens d'y penser à quelque chose. La première chose en 2012, c'était des petites commissions du conflit voisin, conflit conjugal, et c'était mené par des personnes âgées comme à l'ancien. C'était la première pas. Par exemple, une fille, si elle avait des frères, elle héritait pas, elle n'avait pas un héritage de ses parents. Le confédéralisme démocratique, il a mis en lumière ces questions-là. Le patriarcat et la polygamie, surtout, elle a été interdite dans notre politique, même ici à Bordeaux. S'il a deux femmes, par exemple, ils ne sont pas acceptés dans notre association. Nous voulons pas double visage, les droits des femmes, ils sont notre priorité.
Parce que justement, c'est ça qui est intéressant au niveau en fait, du droit des femmes, c'est que par exemple, Rappelez-vous, quand il y a eu les révoltes en Iran à la suite du meurtre de la jeune kurde Mahsa Amini, la foule criait « Jinjiyad Azadi ».
Jinjiyad Azadi, oui.
Qui veut dire, bien sûr, « femme, vie, liberté », et qui trouve ses origines dans la lutte des Kurdes. Car les femmes kurdes, elles ont une double lutte, celle de la colonisation, mais aussi le patriarcat. Et je crois que c'est Öcalan qui disait que la révolution se fera à travers les femmes.
Tout à fait.
Est-ce que tu pourrais revenir sur l'importance de la libération des femmes dans la révolution kurde? Et quelles sont leurs places, leurs rôles au sein des mouvements de guérilla et plus largement au sein de la société kurde?
Moi, je peux parler des femmes qui s'engagent volontairement. Et ce n'est pas facile, c'est vraiment un pas où ce n'était pas du tout le cas dans le passé. C'est le PKK qui a donné cette chance et que la femme retrouve sa place. Et il avait tout à fait raison. La preuve jusqu'à aujourd'hui, ça nous montre à quel point que la femme elle a sa place. Je me rappelle des témoignages des camarades guérilla filles qui disaient quand on s'est engagé la première fois, les groupes des femmes, elles étaient un peu délaissées de dire les garçons, ils organisaient le plan de l'opération d'une attaque. Ou quelque chose ou en danger, ils prenaient les décisions sans revenir vers nous. Ils se sont imposés de dire nous n'existons, on est là, on a autant de intellectuellement et courage qu'on peut faire et mener les mêmes combats physiques et autres, et ils ont prouvé qu'ils sont aussi capables. La survie déjà en montagne, en tant que femme, ce n'est pas rien. Avoir leurs règles, c'était quelque chose, parce que partager le même lieu, manque de moyens, manque de serviettes hygiéniques, c'était soigner leurs cheveux ou se laver. Tout ça, c'est des questions qu'ils ont fait changer aussi avec leurs frères, leurs camarades garçons, et de mener des combats autant que les garçons. Et la mise en place, vraiment, c'était contre l'État islamique. Les femmes étaient en tête. Et la chef de 30 000 soldats de FDS, les forces démocratiques kurdes, était une femme. C'est elle qui dirigeait les opérations. Ce sont les femmes qui organisaient de A à Z aussi les plans et les stratégies de leur combat.
Pour conclure sur la question des femmes, chers auditeurs, je vous mettrai dans l'article de La Clé des Ondes un lien pour regarder un film qui est incroyable, qui s'appelle Goulistan, Terre de Rose, et qui parle notamment en fait, de l'impact et de la force des femmes, dans la guérilla kurde. Et cette question du coup, des femmes kurdes en général, on se retrouvera, j'espère, à ce micro-là le 8 mars, pour aussi faire une émission spéciale, cette fois-ci uniquement sur la condition féminine au Kurdistan.
Avec plaisir.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Badia?
Je voulais juste dire que Gina Amini, elle avait le prénom kurde Gina Amini. C'était pas Mahsa Amini. Les Kurdes, ils ont tous un prénom kurde. Malheureusement, sur les cartes d'identité, il fallait donner un nom autre que qui conviendrait aux États dictatures. Et que je terminerai cette interview avec mon état de conscience, mon état de l'esprit, que aucun regret, ni dans le passé, ni dans l'avenir, de cet engagement en tant que femme kurde. Et la lutte de la femme, comme tu l'as indiqué auparavant, elle est sur tous les fronts, quelle que soit la société, le guérilla et politiquement parlant. Et assez d'assassinats et de féminicides pour nos politiciennes kurdes. Chaque perte, ça nous fait une blessure, mais les blessures, ils sont guéris par notre fierté d'être kurde et de partager ça avec nos amis et nos camarades. Et nous continuerons avec toutes les associations qui défendent les droits des femmes, qui défend les démocraties, qui défend les peuples kurdes, pas que pour une période précise. Notre engagement, il est entier, il est complet. il va jusqu'au bout. Et nous avons montré dans le passé qu'on était là pour défendre les droits de l'homme et protéger la démocratie, et que nous avons besoin de soutien, pas que pour une période pour combattre l'État islamique ensuite, que le silence, ça nous tue, le silence de chacun, le silence citoyen, le silence associatif, le silence politique de l'Occident, ça tue les Kurdes à petit feu. Et les Kurdes, ils ont sacrifié leur vie. J'espère que c'est pas pour rien. Et surtout, à l'avenir, qu'on soit solidaires ensemble et mener cette lutte le plus loin possible.
Galek Spass, merci beaucoup, Badia, pour ton témoignage. Sandra,
merci.
Et donc, je voulais à nouveau remercier Badia d'avoir accepté de participer à notre première émission spéciale sur les mouvements politiques révolutionnaires kurdes, que nous continuerons cette fois-ci en février sur la révolution en action, avec notamment un focus sur Rojava, bien sûr, mais aussi Sinjar et Max Moore. Et donc, pour cette deuxième musique, Badia, tu avais choisi de mettre Mem Ararat. Est-ce que tu veux le présenter ?
Mem Ararat, c'est un chanteur kurde de Bakur, Kurdistan du Nord. C'est un chanteur qui chante pour le Kurdistan, et c'est parce que je l'adore, parce que je m'envole, parce qu'il chante pour les guérillas, il chante pour les fleurs du Kurdistan, il chante pour toute la beauté qui représente le Kurdistan.
Evin xaçırı kekten gele bota Kezi yekedi freli divara Dileğimin bu kere bu kek digabari Xozi zmani riheba bu gota Ke u ke pişta xası part va zinara Evevi ve min jibbe gorustani Xozi zmani riheba Bugutsa ke u ke pishta khos part vaznara evavi we min jibba gorstane kone pena beriel pishta menu tehval evre chal server fe ya karazal kelal دیکال الپی دایی که دایی کلانه به جام دایی که دی چیای چیای بیدام کنه پنا بریل پشتام نور تهبال اوغ چال سر بفی یا که غزال کلال دیکال الپی دایی که دایی کلانه به جام دایی که دی چیای چیای بیدام Thank you.
çaku diriş dübel nesibini Ta sekava sipi ve korji dil ucam Kudi zanem avib sermede bigiri Kuzi bası ki min heba biçumu Min desti kudir işki rahat atabi Çibikim kıyngi iştiye heli gudi Kuzi bası ki min heba biçumu Min desti kudir işki rahat atabi Çibikim kıyngi iştiye heli gudi Bena beriyel pişta minu tehebal Evri çale serber fiyya kar ve zale kelal Dikal el peydayı ki dayı kulani bicam Dayı ki di çiyaya çiyayı bidam Kuni bena beriyel pişta minu tehebal Evri çale serber fiyya kar ve zale kelal Dikal el peydayı ki Dayı kola ne be can, dayı kedi çiyaya çiyayı birdan.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la clé des ondes.
Merci à nouveau Badia d'avoir accepté de participer à notre émission spéciale sur les guérillas kurdes. Nous allons continuer donc cette émission en février, je vous parlais de Rojava et de la révolution en marche au Kurdistan. Et concernant l'actualité, n'oubliez pas que le dimanche 14 janvier à 14h, normalement place de la Bourse, aura lieu une grande manifestation nationale contre la loi Darmanin sur l'immigration. Et mercredi prochain, vous allez donc retrouver Jean-François qui a une interview de Xchel de la Porte concernant les raisins de la misère, donc l'arc de pauvreté qui court le long de la Garonne et correspond aussi aux plus riches vignobles de la région. Merci beaucoup, Badia.
Merci.
Roger Rouach.
Dame Bache.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h. Rediffusé le dimanche à 18h,
et quand vous voulez, en podcast.